France Culture.
Réplique de l'amitié avec Alice Fernet et Anne Serre. L'amitié est le parent pauvre de la littérature. Depuis sa naissance, celle-ci explore inlassablement l'embrasement, la folie, les empêchements, les tourments, les ravages, les étapes, le déclin de la passion amoureuse. Mais rares, voire inexistantes, sont les intrigues amicales. Deux romans viennent aujourd'hui combler ce manque. Comme en amour d'Alice Fernet et Vertu et Rosalinde d'Anne Serre. Commençons par le vôtre, Alice Fernet. Présentez-nous Marianne Villette et Cyril Blau. Qui sont-ils et quelle est la nature de leur relation, Alice Fernet?
Alors, un homme et une femme, puisque tel est le sujet du roman L'amitié homme-femme, que je crois possible, ce qui est déjà un sujet de débat. Elle est styliste, il est photographe, journaliste. Ils se rencontrent lors d'une interview. Il vient chez elle, il fait une série de reportages sur la création, la manière dont les créateurs envisagent leur métier. Et je raconte un coup de foudre amical. Aussi parce que je crois que ça existe et que j'en ai moi-même d'ailleurs vécu, en l'occurrence d'ailleurs avec des femmes plutôt. Et je m'intéresse ensuite à la suite, c'est-à-dire que mon idée c'était vraiment de mettre en mots la matière même de l'amitié. Non pas des aventures que vivraient ensemble des amis, mais l'aventure que représente leur lien. Ils se rencontrent, ensuite déjà ils décident de se revoir, ce qui est une première étape assez mystérieuse. Il y a des tas de gens qu'on rencontre et qu'on ne revoit jamais et on ne fait rien du tout pour cela. Et ensuite ils se mettent à parler. Alors c'est une des choses qui m'a beaucoup amusée quand j'écrivais le livre, c'est je me suis dit qu'est-ce qu'on fait quand on est amis? Et la première chose qu'on fait, et celle à mon avis qu'on fait le plus, c'est parler. Ce qui a mené à une forme extrêmement dialoguée, c'est la première fois que j'écris un roman aussi dialogué. Et je vais raconter toutes leurs conversations avec évidemment le lien qui se tisse à chaque révélation. Je trouve que dans l'amitié, un des plaisirs, c'est de se faire connaître et de découvrir l'autre, et c'est ça que je mets en scène.
Vous dites l'amitié entre un homme et une femme est possible. Il n'empêche, vous dites à propos de Marianne Villette que Cyril Blau n'éveillait en elle aucun émoi sensuel. Il ne l'attirait pas du tout. Mais Cyril Blau, en revanche, est attiré par Marianne Villette, il la trouve sexy, il fantasme même quand il la rencontre qu'elle est libre. Donc il est en fait obligé de sublimer son attirance pour se mettre au même niveau et pour vivre une amitié. Mais n'est-ce pas d'une certaine manière une amitié par défaut, Alice Fernet?
Si, je suis tout à fait d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que l'amitié était le parent pauvre de la littérature, ça m'a frappée. En écrivant le livre et en faisant ce choix que j'ai vu assez fréquent dans la vie, c'est-à-dire, bon, on espérait un amour et on se contente d'une amitié, moi, je m'étais dit, oui, ça peut faire de l'amitié le parent pauvre de l'amour.
Alors, comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous pensé, Anne Serre, de ces deux personnages et de l'histoire qui se tisse entre eux, Anne Serre?
C'est une amitié qui me semble, vous ne le dites pas Alice, mais moi il me semble que la femme qui est mariée, qui a des enfants, enfin voilà, qui est une mère de famille, qui a l'air pas si malheureuse au début dans son couple, hein, on a quand même l'impression que quelque chose lui manque et qu'elle trouve dans cette rencontre avec ce photo, au début les photographes, hein, avec ce photographe, qu'elle trouve dans cette rencontre avec ce photographe un élément qui manque beaucoup à sa vie, parce qu'au fond elle est assez seule, elle a un mari qui travaille beaucoup, qui n'est pas beaucoup là, comme ça arrive peut-être chez des tas de gens, moi j'en sais rien, je suis pas mariée. Voilà, donc elle trouve dans ce garçon quelque chose qu'elle ne vit nulle part ailleurs. Et sur quoi elle saute parce qu'elle est très active au début, très passionnée dans cette
vive.
Voilà. Donc voilà comment j'ai la naissance de cette amitié. Pour moi, n'est pas un coup de foudre. C'est plutôt elle manque de quelque chose et tout d'un coup cette chose est là. Enfin cette chose qui n'est pas une chose, qui est un homme.
J'allais dire, est-ce que toutes nos relations ne viennent pas combler au moins ce besoin de complicité? Moi, j'avais, au début du livre, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais une tendance permanente et naturelle à comparer ce qui se passait dans l'amitié, parce que j'essayais de lister presque les moments de l'amitié. Par exemple, à quel moment est-ce qu'on arrive à se faire des confidences importantes? Quand est-ce qu'on risque de rompre? Il y avait des tas de questions que je me posais et je comparais beaucoup ça à l'amour. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais presque naturellement opté pour la division que font les Grecs entre Eros et Philia. Pour moi, l'amour, c'était un attachement dans lequel le corps est l'objet commun, le premier objet commun. Et l'amitié, au contraire, était un attachement dans lequel il faut un autre objet commun. Il faut un objet commun de toute façon, un terrain de rencontre, une intersection, quelque chose. Ce que j'appelle effectivement une complicité. Il faut avoir des intérêts communs, des activités communes, quand bien même on peut être différent, parce qu'ils le sont complètement, ils n'ont déjà pas du tout la même vie. Mais ce que vous appelez combler un manque, oui, ça pourrait être tout d'un coup rencontrer un complice qui partage avec vous des choses que vous partagez pas forcément, là, en l'occurrence, avec votre mari. Ça, j'y crois beaucoup.
Alors, nous reviendrons sur cette amitié parce que le livre s'appelle « Comme en amour ». Il y a en effet, comme en amour, une rupture amicale. Donc, il y a une véritable intrigue qui se noue entre ces deux êtres. Mais nous y reviendrons. Je voudrais aborder maintenant votre livre, Anne Serre, « Vertu et Rosalinde ». Roman, mais roman étrange, puisqu'en fait ce sont une série d'historiettes que rien ne relie entre elles, sinon la narratrice. Et l'amitié dans ces historiettes est très présente à travers des personnages. Madeleine est une amie, Berthe est une amie, Bénédicte, Béné, c'est celle-là d'ailleurs qui répond toujours à côté, non?
Non, c'est Berthe qui répond à côté.
Berthe qui répond, une autre amie, Pierre Angoureux, et les deux amis dont nous allons parler tout de suite, Vertu et Rosalinde, car on apprend que Vertu n'est pas une qualité, c'est un prénom. Le titre est très beau, très mystérieux, mais ce sont deux personnages centraux, deux amis de la narratrice. Alors, qui sont Vertu et Rosalinde ?
Alors, Vertu et Rosalinde sont, comme vous venez de le dire, deux amis de cette narratrice. Mais il y a une chose que je dois peut-être signaler tout de suite, ces histoires d'amitié, puisque c'est un livre qui n'est pas si épais, il y a énormément de monde dans ce livre, ces histoires d'amitié concernent une narratrice qui est écrivain. C'est-à-dire que
écrivain, dites-vous.
Voilà, elle est écrivain.
Pas écrivaine parce que vous n'avez pas de genre quand vous écrivez.
Non,
c'est
voilà.
Ce que vous dites dans un entretien.
C'est ça.
Pour
que des femmes disent écrivaine ou autrice, ça me gêne pas. Chacun fait comme il veut. Mais moi, quand on me pose la question, c'est vrai que quand j'écris, et d'ailleurs pas seulement quand j'écris, dans toutes sortes de circonstances de la vie et en amitié parfois, je n'ai pas l'impression que mon genre domine. Quand j'aime quelqu'un, j'aime d'abord, dans l'amitié, j'aime d'abord quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un, c'est d'abord quelqu'un, c'est une personne, c'est une âme, c'est une conscience, c'est une manière de se comporter, c'est une manière d'être, etc. Après, dans un second temps, je remarque que cette personne est un homme ou une femme. Mais c'est secondaire. Il y a peut-être que dans l'amour, je suis hétérosexuelle, donc il y a peut-être que dans l'amour où le fait que l'autre soit un homme joue un rôle prédominant. Mais dans tout le reste des relations, et pas seulement quand j'écris, cette question du genre me paraît secondaire. Ce n'est pas que je la nie, c'est qu'elle est secondaire. Voilà. Donc, pour en revenir à ma narratrice, elle est écrivain. Donc, ses amitiés qu'elle a avec beaucoup de femmes dans ce livre sont biaisées d'une certaine manière, même si ce n'est peut-être pas exactement le mot. Ce sont des amitiés d'écrivains. Et les amitiés d'écrivains, c'est quelque chose de particulier. Évidemment, pour nous tous, l'amitié emblématique, l'amitié sublime d'un écrivain, c'est celle de Kafka avec Max Brod. Quand vous m'avez invité à venir parler d'amitié, j'ai pas tellement pensé à moi, et secondairement à mon livre, comme je pense secondairement au genre des gens. J'ai pensé d'abord à Kafka et à Max Brod. Et du coup, j'ai regardé, je l'avais pas fait. Il y a sur Internet, il y a une, vous l'avez tous vu, moi je fais souvent les choses en retard, il y a une vidéo de Max Brod avant sa mort, vers 68, en Israël, bien sûr où il vivait à l'époque, de Max Brod parlant de Kafka. Et alors Max Brod parle de Kafka, il l'appelle tour à tour, vous l'avez vu Alain Finkielkraut cette... Alors regardez ça, c'est bouleversant, parce que, alors de temps en temps il l'appelle Franz, de temps en temps il l'appelle Kafka, moitié-moitié à peu près, ça dure une demi-heure cette... Et quand il décrit son amitié avec Kafka, il dit pas... cet homme était prodigieux, exceptionnel. Non, c'était un ami. Donc, bien sûr qu'il sait qu'il était prodigieux et exceptionnel, mais il parle de ses échanges avec Kafka. Et il raconte ce que vous disiez tout à l'heure, Alice, à propos de la conversation. Mais évidemment, là, on était à Prague dans les années 1900. Hein, ils sont connus à 20 ans. Donc, il dit qu'il se voyait tous les jours. Et parfois deux fois par jour à Prague. Ils sont rencontrés, ils avaient 20 ans, hein. Ils étaient étudiants. Évidemment, on n'avait pas les SMS, même peut-être pas le téléphone à Prague, j'en sais rien. En tout cas, ils allaient l'un chez l'autre, ils se baladaient ensemble, ils parlaient ensemble, mais ils ne parlaient pas uniquement de littérature. Ils parlaient évidemment de littérature, mais ils parlaient aussi, comme parlent deux amis, de la vie, de leurs parents, de leur famille, de leur maison. Kafka cherchait à sortir de chez lui, à avoir une chambre de bonne. Il n'arrivait pas à sortir de chez lui, ça on le sait. Donc, je reviens à ce que vous m'avez demandé au début, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler
vous
de ça.
Vous avez bien fait.
Parce qu'il faut que vous vous jetiez, une fois l'émission terminée, il faut que vous vous jetiez sur cette vidéo qui est bouleversante. Cet homme qui a touché Kafka. Il a forcément, c'était son ami, donc il a forcément touché son manteau à un moment. En lui donnant une petite tape sur l'épaule, en lui disant « Allez, Franz », il l'a touché. Voilà ce que c'est l'amitié.
Et donc, mais alors, Rosanna des vertus, alors.
Alors, on en revient à mes personnages. Ma narratrice, elle est écrivain, donc elle me ressemble pas mal dans ce registre, hein. Et toutes ses amies, finalement, ont quelque chose à voir avec, je dirais pas la littérature, mais avec la langue. Vous voyez, par exemple, vous parliez de cette amie qui s'appelle Berthe, qui parle toujours à côté. Qui répond oui. Toujours à côté. Quelqu'un a dit qu'on pouvait dire que mes livres étaient de guingois. Ça m'a énormément plu, cette manière de désigner mes livres, qui est très maligne, je trouve, très fine. Et alors voilà, donc elle a une amie qui parle de guingois. Donc c'est pour ça qu'elle est amie avec elle. L'autre amie, Madeleine, elle passe son temps dans son lit à lire. Dans un grand lit, dans une grande maison, elle lit tout le temps. Et pourquoi elle est amie avec Madeleine ?
Elle lit au lit et elle ça, lit vous, au lit. Ça vous amuse de l'écrire.
Ah bah oui, parce qu'elle lit au lit, c'est beaucoup mieux en français qu'en anglais, par exemple. Quand le livre sera traduit en anglais, ça sera moins rigolo. Je sais pas comment fera le traducteur, d'ailleurs.
Mais c'est qui est votre ami, d'ailleurs, le traducteur ?
Oui.
Un ami de...
Qui est mon grand ami, Mark Hutchinson, qui est mon grand ami depuis 40 ans. Et après, je vous parlerai de ce que c'est que cette amitié.
Un mot quand même sur Rosalinde.
Oui.
Elle a 76 ans, une très belle tête à la Lou Andrea Salomé, et elle vous accueille par ces mots... Pardon, elle accueille la narratrice. Je confonds toujours l'auteur et le narrateur.
Ah oui, il faut pas.
Moi, je suis un homme très fruste. Donc pour moi, quand quelqu'un dit « je », c'est lui.
Ouais. Vous voyez, c'est une erreur, Alain Finkielkraut, c'est une erreur. Méfiez-vous de cette...
C'est vrai. Ouais. Mais même dans La recherche du sens perdu, Marcel, c'est un peu Proust aussi. Ouais. Enfin bref. Donc, mais je me corrige. En tout cas, cette Rosalinde, qui a très belle tête à la Lou Andrea Salomé, elle l'accueille, Anne-Lise, et la narratrice va chez elle, parce qu'elle est très sensible à cet accueil. Mais c'est extraordinaire, c'est que quand la narratrice la trouve en compagnie de quelqu'un d'autre, elle rebrouche chemin, elle fait demi-tour, elle est furieuse. Ce qui semble indiquer, et comme ça nous permettra de revenir au livre d'Alice Fernet, qu'il peut y avoir aussi une exclusivité dans l'amitié, une jalousie dans l'amitié. La jalousie n'est pas forcément réservée à l'amour.
Sûrement, mais...
Anne-Serre.
Oui, j'emploierais pas le mot de jalousie.
Mais pourquoi elle fait ça, alors ?
Elle fait ça parce que, À la fin de cette historiette, elle dit que quand son amie ne l'accueille pas les bras grands ouverts, elle a l'impression qu'elle ne pourra plus écrire. Et c'est comme si l'affection, plus que l'exclusivité, l'affection, l'enveloppement, hein, quand on vous accueille comme ça avec les bras ouverts, on vous enveloppe d'une certaine manière. Donc l'ami qui vous enveloppe par son affection, etc., vous permet d'écrire. Et si elle est plus que furieuse, autrement que furieuse, si elle est blessée de ne pas trouver ses bras ouverts pour elle, mais pour quelqu'un d'autre, c'est pas tellement une histoire de jalousie, c'est parce qu'elle risque de ne plus pouvoir écrire. Privée de cette amitié.
D'accord. Vous donnez, si je peux intervenir,
oui, beaucoup d'amitié aussi dans ce livre.
Vous donnez la réponse un peu plus loin. Vous écrivez, enfin, la narratrice écrit « Être deux me plaisait, trois, c'était un peu trop, et au-delà, c'était autre chose. » Et c'est à propos d'une autre amie, celle que vous comparez à un nénuphar. Donc, en fait, c'est la narratrice. Et en effet, on n'a pas du tout... toutes les conversations sont transformées selon qu'on est deux ou plus ou encore davantage. Hein. Déjà. Mais alors, il y a une chose qui m'a troublée aussi et que je trouve très intéressante dans le premier chapitre concernant Rosalinde, c'est quand, à la fin du chapitre, vous parlez de ce geste qui vous fait, enfin, qui fait tellement d'effet à Anne-Lise. Anne-Lise avec les bras ouverts, et vous dites, et ces grands bras ouverts, une manière de faire, un geste appris dont elle avait mesuré le pouvoir de séduction. Ce qui pose, je trouve, la question de toujours la sincérité. Une des choses que je pensais en écrivant mon texte, c'était, et au tout début, je l'ai même fait remarquer, pour moi, il y a dans la vie les gens qui font confiance aux mots et les gens qui ont au contraire une idée des mots qui seraient non pas pour nous rapprocher, mais des outils pour nous tromper. Et là, en fait, cette phrase, je la trouve terrible parce que tout d'un coup, elle laisse entendre que, et effectivement, dans la vie, en vieillissant, on voit parfois qu'il y a des choses qui marche, entre guillemets, on laisse entendre qu'elle soupçonnerait une petite manipulation. Et pour moi, bon, c'est très important, cette question de la sincérité. Dans mon livre, les deux personnages, d'emblée, j'allais dire, font confiance à l'autre et à la sincérité et aux mots qui sont dits.
Confiance, confidence. Et là, nous entrons dans le vif de votre livre, Alice Fernet. Donc, Cyril Blot s'est résolu à avoir une relation exclusivement amicale avec Marianne Villette et il lui confie tout. Et donc, il rencontre une femme, Julia, dont il tombe éperdument amoureux, mais la relation entre en crise, une crise d'ailleurs qui deviendra terminale, parce que il ne veut absolument pas d'enfant. Et elle, Julia, désire un enfant. Julia, d'ailleurs, se confiera à Marianne, ce qui fait qu'il y aura deux ruptures dans le livre. La rupture de Cyril avec Julia et la rupture finale de Cyril avec Marianne. Rupture amicale. Mais ce que dit Cyril, ce que vous dites à son propos, toute progéniture signait la fin réelle du droit de disposer librement de sa vie. Parce qu'il vit très pauvrement, rue Bonaparte, dans une chambre, avec un rythme à lui. Il travaille la nuit, il dort le jour, etc. Il ne veut pas en démordre. Donc il veut de toute façon garder sa chambre. Et en plus, un enfant, ce serait la fin de la liberté. Alors, que signifie ce choix? Et comment jugez-vous, Cyril Blot? Je vous demanderai à tous deux, ça. Parce que moi, je le juge. Ah mais je suis un lecteur fruste, hein, faut le savoir.
Vous êtes un lecteur. Les émotions du lecteur ne sont pas celles de l'auteur. Mais moi, forcément, je le comprends et je l'aime. Je l'aurais peut-être mise en scène différemment. Une des grandes questions que je me suis posée et que je me posais en commençant le livre, c'était que tolère-t-on de ses amis ? Est-ce qu'un ami peut faire quelque chose qui vous déplaît tellement, qui vous choque tellement, que vous le perdrez pour cette raison ? Et alors, comme je mettais en scène résolument une amitié homme-femme, ça m'intéressait d'explorer ce que la différence des sexes apporte dans l'amitié. Par exemple, qu'est-ce qui différencie une complicité féminine entre deux copines et puis une amitié homme-femme. Et il y avait forcément cette différence de conditions. Lui, homme, et puis elle, femme, qui en particulier, donc pour moi, la grande différence, c'est enfant au dedans et enfant au dehors. Et la question subsidiaire, c'était aussi, est-ce qu'une femme peut être amie avec un séducteur? Non pas tant parce qu'il essaierait de la séduire, parce que ça, c'est pas difficile de s'en prémunir, mais plutôt parce qu'elle observerait du point de vue de l'amitié la manière dont il traite ses conquêtes. Et j'ai choisi cette problématique-là. Donc effectivement, lui, le personnage de Cyril, je dirais pas complètement que c'est un séducteur. C'est un homme séduisant.
C'est un homme séduisant.
Il est drôle, il est beau garçon, il est intelligent, il est cultivé. Bon, et donc il séduit une femme, une artiste.
Oui, mais il tombe amoureux d'elle aussi.
Il tombe amoureux d'elle. Donc c'est pas un méchant séducteur.
Mais alors, comment vous avez jugé Cyril Brault? Cette intrigue, comment l'avez perçue en tant que lectrice?
Alice, je dois vous dire que je ne suis pas folle de ce garçon. Et que je n'en aurais peut-être pas fait un ami, mais chacun ses choix, chacun ses goûts, et chacun surtout sa construction psychique qui fait qu'on est attiré par un tel ou un tel. Mais ce qui m'intéresse, moi surtout, c'est, au fond, Alice, dans ce roman, raconte une amitié. Une amitié qui... Parmi d'autres, on peut imaginer que l'année prochaine, elle aura une autre amitié pour quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce type d'amitié-là, qui est pleine de choses qu'on va dire, mais c'est la grande amitié. C'est la grande amitié, je vous ai parlé tout à l'heure, je ne veux pas revenir tout le temps à ça, mais au fond, c'est la seule qui m'intéresse, parce qu'elle est mystérieuse. L'amitié que j'évoquais tout à l'heure, de Kafka et Max Brod, bon, elle est mystérieuse. Et justement, j'ai une question à vous poser, Alain Finkielkraut, je voudrais une réponse à ce mystère. Mais je pense par exemple à l'amitié de Thomas Bernhard pour, comment s'appelait cette femme, Edwige, j'oublie son nom allemand. Thomas Bernhard, comme on le sait tous, a rencontré, quand il était dans un sanatorium à 19 ans, une femme qui s'appelait Edwige, qui avait 35 ans de plus que lui. Et il est devenu, immédiatement, on est toujours dans l'immédiat, là, très ami, même pas très ami, c'est devenu l'ami de sa vie. Et vous savez comment il appelait ça, Thomas Bernhard? Il disait qu'elle était son être vital. En allemand, ça se dit... Lebensmensch, c'était son être vital. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est mystérieux, c'est autre chose que l'amour. On peut dire mille choses de quelqu'un qu'on aime d'amour. Est-ce qu'on dira c'est mon être vital?
Dans
certains cas, on peut.
On peut le dire d'un ami ou d'une amie.
Voilà, d'une grande amie ou d'un grand ami, qui sont toujours des amis pour la vie.
Moi, là, pour le coup, je m'inscris un peu en faux. C'est-à-dire que d'abord... Ce que j'ai raconté, à mes yeux, ils sont de grands amis. Ils se parlent quand même au téléphone tous les jours et ils parlent des choses les plus intimes, c'est-à-dire leur métier de création et leurs amours, qui sont quand même les deux sujets qu'on aborde seulement avec les grands amis. Et par ailleurs, le roman, j'ai inscrit d'ailleurs un petit indicateur de date qui est la publication du texte de Drie La Rochelle qui s'appelle « Notes sur la sexualité » qui date de 2008. Donc l'histoire commence en 2008, c'est pas exactement dit, et elle dure à peu près 8 ans. Et 8 ans de conversation presque quotidienne. Donc c'est une grande amitié, et moi je crois qu'on peut perdre des grands amis. C'est-à-dire, effectivement, le temps valide, le temps donne de la valeur, comme à l'amour d'ailleurs. Mais on n'arrive pas toujours à traverser toute la vie. Mais pour moi, ce sont de grands amis.
Oui, ce sont de grands amis. Mais revenons quand même, je vais vous expliquer moi... Pourquoi Cyril Brault m'énerve? Je répète cette phrase. Toute progéniture signait la fin réelle du droit de disposer librement de sa vie. Mais ce qui signe la fin réelle du droit de disposer librement de sa vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la découverte incroyable d'une aliénation supérieure à la liberté. Pour le dire comme Nathalie Sartoulajas, on découvre dans la dépendance... la vérité de sa condition. Donc on se dit que cet homme, en fait, par-delà son infantophobie, ne sait pas aimer, D'ailleurs, il refuse de changer de domicile, etc. L'autonomie est une valeur supérieure. Et donc, il ne connaît pas vraiment l'amour. Et c'est ça qui m'exaspère, c'est ça qui me déçoit. Et je comprends Julien, moi j'ai eu un enfant, mais c'était dans l'accomplissement d'amour, dans le prolongement d'amour. C'est pas une nécessité biologique, c'était pas Schopenhauer, c'est pas l'espèce qui parlait en moi. C'était l'amour, parce que, oui, cet amour voulait un accomplissement. Mais, mais parce que j'avais abdiqué ma liberté, et lui ne l'abdique jamais. Et c'est en cela, si vous voulez, que c'est un personnage un peu frustrant.
Oui, alors c'est drôle parce que un écrivain que je trouve excellent, François Taillandier, a trouvé la formule parfaite. Il m'a parlé de panique de la paternité. Et effectivement, moi je la comprends très bien parce que c'est un homme qui ne veut pas perdre sa vie à la gagner. Et effectivement, on sait bien qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité, ça vous engage. En revanche, je ne pense pas qu'on n'aime pas une femme parce qu'on ne veut pas avoir un enfant avec elle. Simplement, ça crée une situation impossible. Pour moi, je trouve cette situation intéressante et cette histoire intéressante parce que personne n'a tort. Tout le monde a ses raisons. Simplement, elle s'articule pas. Mais c'est une situation tout à fait compréhensible. Et lui, je le comprends très bien.
Oui, mais alors justement, panique de la paternité, comme dit François Taillandier, dans votre roman, Anne-Serre, il y a aussi une panique de la maternité chez ce personnage au nom absolument incroyable, Vertu Angenehm. Angenehm, ça veut dire agréable en allemand. Vertu Angenehm ne veut surtout pas d'enfant. Et d'ailleurs, elle avorte.
Oui, c'est une espèce d'image d'avortement. Il y a une scène qui est décrite. Elle se promène dans un champ plein d'herbes dorées. Et l'enfant qu'elle attend et qu'elle ne veut pas, elle ne veut tellement pas qu'il disparaît. Il s'écoule, si on peut dire.
Il s'écoule, voilà.
Il s'écoule, voilà. Alors, je dirais pas que c'est une panique, c'est pas le mot pour Vertu. Et puis, et son amie, après la narratrice, qui dit « Moi aussi, je n'ai jamais voulu d'enfant. »
Voilà.
C'est pas une... Elle est encore pire, elle dit « Je n'ai jamais tellement aimé les mères, alors j'aime les pères, etc., les oncles, les tantes, mais les mères, non. »
C'est vrai, mais avant, elle dit qu'elle veut... C'est pas de la panique, c'est un refus. C'est simplement l'une comme l'autre... Elles sont toutes les deux écrivains, là aussi. Est-ce que ça a un rapport? Je n'en sais rien. Mais l'une comme l'autre, simplement, n'ont pas ce désir qu'ont la plupart des femmes, ou beaucoup de femmes. Elles, ce n'est pas idéologique, ça n'est pas un choix intellectuel, ça n'est pas un choix pour répondre à je ne sais quoi. Simplement, elles n'en ont pas envie. Elles n'ont pas ce besoin, ni cette envie d'enfant.
Donc, comme Cyril Bloch, qui tient par-dessus tout à sa liberté, je le répète aussi bien... dans son refus d'enfant que dans sa manière de vivre l'amour. Julia n'en peut plus parce qu'elle a 35 ans, elle veut un enfant, elle tombe enceinte.
Racontez pas tout.
Non, je raconte pas tout. Mais il y a donc une rupture amoureuse, je ne raconte pas, et une rupture amicale aussi. D'où cela vient-il? Comment se fait-il que leur amitié... pourtant si profonde, si solide, où justement, ils disent tout de leur intimité, comment se fait-il qu'elle puisse finir, qu'elle puisse exploser?
Au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, c'était très étrange, j'avais l'impression que ça devenait presque une fable morale qui m'apprenait des choses. Et pour moi, il y a trois raisons pour lesquelles cette amitié est en péril radical. C'est tout d'abord, et c'est une des premières leçons, je pense que Cyril fait rentrer son amie trop loin dans son intimité. Il y a un chapitre où elle écrit une lettre à sa place. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dis, ça va mal se passer. Parce que c'est très fréquent, la confidence dangereuse, la transparence dangereuse. Pour moi, c'est une des leçons du livre. Il y a une limite... Il ne faut pas tout connaître de l'autre. Parce qu'à un moment, d'ailleurs, il vous en voudra. Ou alors, ça changera complètement votre regard sur lui. Mais en tout cas, les dangers de tout savoir sont très grands. Ensuite, la deuxième raison, à mon avis, c'est qu'elle est une femme. Et elle est mise entre un homme et une femme qui vivent une histoire d'amour qui se complique. Alors déjà, on lui demande son avis et elle le donne, ce qui évidemment est dangereux. Elle devient en quelque sorte le réceptacle des confidences de l'un et de l'autre. D'ailleurs, un moyen de savoir ce que pense l'autre pour chacun des deux amis. Donc elle a une place qui est intenable à mon avis. Et en particulier quand les deux autres se répètent ce qu'elle a dit en le déformant. Bon, ça, c'est la deuxième leçon. C'est-à-dire, dans l'amitié, un bon ami, moi, je me suis vraiment posé la question du bon ami, il répète pas ce qu'on lui raconte. La confidentialité, c'est fondamental. Et en particulier, il ne l'utilise pas. Or là, c'est ce qui se passe un peu. Donc, il y a toute cette réflexion sur les mots dits, ou les mots qui manquent, d'ailleurs, et puis qui sont répétés en plus par un tiers. Donc, là, il y a une limite à l'intimité, la confidentialité est nécessaire. Et puis la troisième chose, c'est qu'elle est femme et lui est homme. Et à un moment, en fait, et je trouvais que c'était très moderne, la solidarité féminine, qu'aujourd'hui on appelle la sororité et qui existe, pas toujours, mais qui existe, prend le pas et devient un obstacle à l'amitié.
Donc, voilà, il peut y avoir des ruptures amicales, comme il y a des ruptures amoureuses, et c'est sur cette note mélancolique, d'ailleurs, que se termine le livre. Mais, il y a l'épigraphe aussi, sur lequel je voudrais qu'on s'interroge, parce qu'il est très intéressant, et il engage une réflexion générale sur l'amitié. Vous avez parlé de Kafka et de Max Brod, moi j'ai en tête Montaigne et la Boétie.
Par exemple.
Oui. Forcément, parce que c'était lui, parce que
c'était moi. J'ai pensé à Louis Guillou et Camus, là. Il y a un livre qui est sorti et j'ai regardé, pour le coup, un entretien avec Louis Guillou. C'est très émouvant. Il dit, avec Camus, l'amitié était très facile.
Qui dit ça ?
Louis Guillou.
Ah, Louis Guillou.
Ils avaient été présentés par, je crois que c'est par Roger Grenier. Et ils sont devenus amis instantanément.
Alors, je lis cette phrase et je vais demander de réagir. Anne Serre, donc épigraphe de Comme on amour. L'amitié qui est soumise à un intérêt supérieur à l'amitié n'a rien à faire avec l'amitié. Contrairement à la puérile fidélité à une conviction, la fidélité à un ami est une vertu, peut-être la seule, la dernière.
C'est de qui ?
Milan Kundera.
Ah oui, vous
une
l'avez
rencontre.
Dit tout à l'heure. Oui, oui.
Oui, oui.
Kundera.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que vous pourriez répéter ?
Oh ben bien sûr.
S'il vous plaît. S'il
non,
vous
non,
plaît.
Mais c'est bien comme ça. Ouais. Ça
lentement, lentement.
C'est les émissions de France Culture.
Voilà.
Vous voyez ce que je veux dire ? On peut répéter, on a le temps.
Voilà.
Il nous reste près de 20 minutes.
C'est parfait.
On est au calme. L'amitié qui est soumise à un intérêt supérieur à l'amitié n'a rien à faire avec l'amitié.
Oui.
Contrairement à la puérile fidélité à une conviction, la fidélité à un ami est une vertu, peut-être la seule, la dernière.
Oui, 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 bien sûr que je suis évidemment tout à fait d'accord avec cette très belle phrase. Moi, je pense, alors j'en reviens toujours, pardon de tirer, mais c'est à ça, voilà. Je suis intéressée par l'amitié sublime, hein, dont j'ai cité quelques cas, mais il y en a d'autres, l'amitié de Flaubert avec Louis Bouilhet, ou l'amitié. Et il s'agit pas d'amitié entre deux écrivains, qui est autre chose, qui peut être une bonne camaraderie ou une bonne amitié. Mais moi, je parle pas de ça. Moi, je parle des couples inoubliables comme ceux que je viens de citer. Il y en a d'autres. Vous parliez de Proust tout à l'heure, Alain Finkielkraut. Proust, le couple de Proust, qui était le meilleur ami de Proust ? C'était pas Reynald Hahn, comme on le croit. Non, c'était un grand ami, Reynald Hahn. Mais sa vraie amie, sa grande amie, c'était Céleste, qui tenait la porte de son monde de créateur et qui ouvrait la porte, qui la fermait et qui c'était Céleste, le couple qui voilà. Donc je reviens j'ai un peu l'esprit de l'escalier, pardon, mais quand même.
Non, mais c'est pas grave.
Quand même. Moi, j'ai l'impression que dans l'amitié sublime, telle que celle qui m'intéresse, la seule qui m'intéresse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pieux, et ça, ça rejoint un tout petit peu ce que dit Kundera, que les deux membres du couple, puisqu'il s'agit d'un couple, les deux membres de ce couple d'amis ont une activité pieuse ensemble. Presque religieuse, je dirais. Et alors, c'est là où j'ai une question pour vous, Alain Finkielkraut, parce que je n'ai pas trouvé la réponse. Je pense que dans ces couples, et on revient à Max Brod et Kafka, et on peut en citer 10 autres, pas 50, mais 10, je pense que les deux amis à vie, l'un qui est souvent un grand artiste, l'autre qui est son écho, moi je pense qu'en fait ils sont recueillis au-dessus de quelque chose, mais quoi ? Et je dirais même qu'ils sont peut-être recueillis au-dessus d'une dépouille. Je réfléchis à ça depuis un moment, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, c'est probablement Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que c'est ce corps au-dessus duquel sont les deux amis Virginia Woolf et Léonard, ils se trouve qu'ils étaient mariés, mais c'était un détail. C'était de grands amis. Ils sont recueillis au-dessus d'un corps. Qu'est-ce que c'est, ce corps ?
Ah, ça, je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas. Je vais vous décevoir, Anser. C'est horrible.
Non, mais vous allez.
Déjà que je suis un lecteur frustré.
Non, mais vous allez réfléchir et me dire une autre fois.
Une autre fois.
Voilà.
Mais je prends votre question, je l'enregistre.
C'est une question importante.
Et je vais la méditer, absolument. Mais alors, vous avez cité cette phrase de Kundera. C'est donc que vous y adhérez complètement, Alice Fernet.
Ben, c'est que le livre, pour moi, pose cette question, parce que d'ailleurs, je semble rejoindre, en tout cas dans le choix que j'ai fait de la fin, où quand même, elle regrette son ami. Et je persiste, on a beaucoup critiqué cet ami, mais c'est un bon ami. Parce que qu'est-ce que c'est un bon ami ? C'est quelqu'un qui prend plaisir à vous voir, que vous avez plaisir à voir, avec qui vous riez, avec qui vous pensez, qui console vos chagrins, se réjouit de vos succès, ce qui est une chose parfois plus rare. Et il fait tout ça. C'est un formidable ami. Il écoute beaucoup. Donc à la fin, en effet, une fois qu'il n'est plus là, elle le regrette. Et d'ailleurs, elle essaye de se rappeler pourquoi elle l'a perdu.
Pourquoi elle l'a perdu. Mais quand même, moi, je vais m'intéresser à la phrase de Kundera, puisqu'elle est citée en épigraphe à votre livre. Je la comprends d'une certaine manière, d'autant plus qu'elle est écrite au terme d'un siècle où la politique a brisé des amitiés, parce que c'était une politique pensée sous le paradigme de la guerre. Hein ? Robespierriste, chez un peuple libre, il n'y a que des frères et des ennemis. Des frères, voilà, c'est la fraternité de combat. Il y a des frères et des ennemis, il n'y a pas d'amis. Et c'est cette phrase de Nisan. Il n'existe que plus que deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Vous savez, ne que. La réduction de la pluralité humaine au chiffre 2. Deux humanités. Et ça, évidemment, ça rend toute amitié impossible. Parce que l'amitié, c'est la reconnaissance même de cette pureté humaine dont parle admirablement Hannah Arendt. Simplement, la conviction, qu'est-ce que c'est ? La conviction, c'est la manière dont le monde vous affecte. Et qu'est-ce qu'on fait avec des amis, en tête à tête, mais aussi dans un dîner, etc. On parle du monde, on réfléchit sur le monde, on s'interroge. On expérimente, c'est vrai. On va trop loin. C'est la merveille de l'amitié, c'est de pousser le bouchon. On pousse le bouchon, et heureusement que c'est en privé, parce que on se retrouverait en prison. Mais c'est la beauté de l'amitié. Mais là, je me dis, et ça, je me le dis un peu pour vos personnages, on a l'impression que ils tiennent le monde à distance, que d'une certaine manière, l'intimité couvre tout le champ de l'amitié, l'intimité, les confidences, etc. Et vous parlez dans Anser, dans la NRF, de vos conversations en tête-à-tête avec des amis, mais jamais il n'est question du monde. Comme si, et c'est ça la question que je pose, comme si il pouvait y avoir de vraies amitiés acosmiques. Et d'autres, et j'ajoute que même dans un monde qui a renoncé justement à ce dualisme, à ce manichéisme, des amitiés peuvent exploser pour des raisons qui sont liées à la politique. On l'a vu après le 7 octobre. Des amitiés, des couples, des familles qui ont volé en éclats. Et donc tout ça, on ne peut pas, me semble-t-il, vivre une amitié à l'écart du monde, ou en tout cas, ça me semble une amitié faible, Anser.
Oui, vous avez raison, bien sûr. Mais je pense pas. Alors, est-ce que vous faites allusion en parlant de ça aux amitiés qui sont des mots. D'ailleurs, ce sont pas vraiment des amitiés qui sont évoquées dans mon livre. Ce sont des moments d'amitié.
Oui, ce sont des moments d'amitié.
Ce sont des moments d'amitié. C'est pas l'histoire comme chez Alice Fernet. C'est pas l'histoire d'une amitié à aucun moment. Ce qui appartient plutôt à un autre de mes livres qui s'appelait Un chapeau léopard, où ça, c'est l'histoire d'une amitié entre deux personnes. Donc là, ce sont des moments d'amitié. Mais oui, évidemment, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que le monde entre dans... Et comme le disait Alice, l'amitié est faite essentiellement, et vous le disiez aussi, de la conversation. Tout est dans la conversation. Et la conversation, on n'est pas obligé tout le temps de débattre d'idées, etc. Mais il y a une conversation permanente avec l'autre, qui traite évidemment non seulement de vos émotions, de votre quotidien, etc., mais qui traite de ce qui se passe autour de vous, naturellement, et donc d'un échange permanent sur ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire dans le monde.
Mais alors, c'est très intéressant. J'aurais presque pu devancer votre remarque sur la politique. C'est vrai que j'ai écrit le livre pendant que la guerre en Ukraine commençait, que se passait le 7 octobre. Et je pense que, et j'en ai eu conscience, j'ai décidé qu'il ne parlerait pas de politique, qu'il ne se disputerait pas à cause de la politique, ce qui,
oui,
pour certains, est la principale.
L'un comme l'autre manquait, oui, de structure idéologique et s'en félicitait. Il se tenait à distance de la fourmilière.
Exactement. Donc, voilà. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Et je pense que c'était aussi... Enfin, d'abord, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Oui.
C'était comme un sujet, un deuxième sujet dans le livre. Donc, je l'ai évité, on peut dire ça comme ça. C'était une stratégie d'évitement. Mais par ailleurs aussi, je me suis posé la question moi-même. C'était presque une stratégie d'autoprotection. Parce que un livre, c'est comme un objet second dans votre vie, c'est comme un refuge. Enfin, moi, je le vois un peu comme une maison, quelque chose qui grandit en même temps que se passe la vie. Et j'avais choisi cet objet qui était apolitique.
Oui, c'est vrai. Mais d'une certaine... On dit la politique. En fait, j'ai envie de dire le monde.
Le monde.
Vous savez que la condition de l'homme moderne avait pour titre initial « Amor Mundi » d'Anna Arendt. « Amor Mundi ». Ben oui, mais cet amour du monde... C'est dans l'amitié, malgré tout, qu'on le partage. Donc, le monde, on le fait entrer et on essaye de comprendre. Donc, vous aviez un problème d'ordre esthétique. Vous n'avez pas voulu faire entrer la guerre en Ukraine, mais de manière générale, c'est difficile de tenir le monde à l'écart de l'amitié. Et vous le constatez d'ailleurs, quand même, dans le livre. Une amitié exclusivement fondée sur la confidence peut mener à une impasse. Et c'est bien ce qui arrive à vos deux personnages, Alice Fernet. Parce que...
Oui, mais je pense que c'est pas vraiment pour ça. Mais c'est vrai qu'ils sont l'un et l'autre des gens qui ne romperaient pas à cause de leurs idées. Ça, c'est,
oui,
sûr.
C'est sûr.
En fait, d'une certaine façon, ce qui pose un problème, c'est pas tant les idées qu'ils ont, que aux yeux, en tout cas, du personnage féminin, la manière, ça c'est une des grandes questions que je me pose toujours, la manière dont vos amis traitent les autres. Parce que vos amis vous traitent toujours bien, mais comment traitent-ils les autres ? C'était pour moi le sujet. Vous savez, quand j'ai fini le livre, j'ai pensé que le sujet était tellement vaste que j'en avais juste éclairé...
Vous avez décidé d'en faire un second sur le même sujet.
Le sujet est très vaste.
Bah, la politique
en plus,
et les
il
amis,
a été
c'est un sujet.
Très peu exploré par la littérature. Donc c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Alors, dans votre livre, Anne Serre, il y a un personnage que j'ai adoré. C'est un ami incroyable, c'est Bardoli. Vous avez parlé de Bardoli et de son amitié idolâtre, magnifique, exclusive pour Federico Fellini, qui est aussi un de vos artistes de prédilection. Alors pourquoi ce chapitre sur Bardoli et que nous apprend-il, Anne Serre ?
Oui, Fellini a joué un grand rôle dans ma vie, son œuvre. Je dis souvent, et je le répète ici, parce que j'ai pas changé, qu'elle a joué probablement un rôle aussi grand que l'œuvre de Kafka, l'œuvre de Fellini. Comment est venu ? Je crois que c'est un livre qui est beaucoup autour de l'amitié, beaucoup autour de la mort aussi.
Oui.
Et dans toutes ces historiettes, il entre des morts, parfois de leur belle mort, morts de leur belle mort, parfois assassinés, parfois suicidés. Enfin, il y a beaucoup de morts qui circulent dans ce livre. Et donc, avec Fellini, j'ai une espèce de petit accord secret de fantôme, j'allais dire de fantôme à fantôme, parce que finalement, quand on est écrivain, on est une sorte de fantôme. Donc, de fantôme à fantôme, on a une espèce d'accord secret et une grande amitié. Voilà quelqu'un avec qui j'ai une grande amitié, avec Fellini. C'est dans chaque livre, maintenant, je fais quelques pages le concernant.
Mais alors, ce Bardoli, qui c'est ?
Alors, ce Bardoli, eh bien, ce Bardoli, c'est... qui n'existe pas en réalité, naturellement. Hein, j'ai imaginé. Alors je sais que vous ne voulez pas que les gens imaginent.
Non.
Il faut pas inviter des romanciers, Alain Finkielkraut, si vous voulez pas que les gens imaginent. Il faut inviter
des
philosophes.
Et Fellini, vous l'avez pas imaginé, donc.
Non, Fellini, je l'ai pas imaginé. Mais oui, vous êtes gêné quand il y a un peu d'expérience et un peu d'imagination mêlée. C'est ce qu'on appelle souvent la littérature.
Oui,
ce mélange.
Oui, donc je suis gêné par la littérature. Merci Anne Serre. Non, là vraiment, je suis oublié pour l'hiver. Là. Non, mais simplement, ce Bardoli donc adore Fellini,
oui.
Puis il n'a pas existé. Mmh. Il a voué sa vie à Fellini.
Oui.
Et moi, j'ai énormément aimé ce chapitre. Je me suis dit que c'était possible.
Oui, bien sûr que c'est possible.
De vouer sa vie à Fellini.
Oui.
D'ailleurs, j'ai connu une secrétaire qui n'existait que pour lui. Et surtout, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Fellini. Une chance inouïe. Je vais à une revue, Le Messager Européen, et je l'ai interviewé pour un film qu'il était en train de faire, Intervista.
Oui.
Et je me souviens de ces conversations, donc je l'ai vu deux ou trois fois, même trois fois.
Oui.
Et c'était un homme absolument merveilleux.
Oui.
Absolument merveilleux, délicat, profond, drôle, et nous avons parlé d'Amarcord, et notamment d'une scène de fantôme. La scène d'Amarcord, où dans le brouillard de l'hiver, on voit des adolescents qui dansent et qui miment l'orchestre devant le grand hôtel de Rimini, fermé parce que c'est l'hiver.
Oui.
C'est vraiment la danse de la nostalgie.
Oui.
Et voilà, nous avons évoqué tout ça. Et donc, je vous comprends très bien. C'est vraiment un immense cinéaste. Et j'ai eu une chance extraordinaire,
oui,
de le croiser dans ma vie.
Parler avec
c'est
lui.
Un génie qui est humainement à la hauteur de son génie. Et tous les génies ne peuvent pas en dire autant,
oui,
si je puis dire.
Oui.
Donc, mais je ne me consolerai pas de ce Bardoli, là.
Si, parce que c'est justement, on retombe sur nos pieds, c'est l'histoire d'une amitié aussi. Alors d'une amitié dans laquelle il y a, de la part de ce Bardoli imaginé, mais qui aurait pu être moi, je suis Bardoli, c'est une amitié pour quelqu'un d'admirer, parce que je me rappelle avoir lu que quelque part, je sais plus très bien de qui, quelqu'un disant, et c'est très juste cette phrase, qu'on a de l'amitié pour quelqu'un qu'on estime plus que soi-même. Et qui disait ça, je me rappelle plus, on trouvera un autre jour, c'est pas grave, mais c'est l'histoire de l'estime, ça m'intéresse.
Ah oui.
Cette estime, le grand ami que c'est quelqu'un qu'on estime et plus que soi. Voilà.
Vous adhérez à cette, à cette définition, Alice Ferney ?
Si l'estime est réciproque, parce que là, je trouve que cette histoire, justement, que Alain aime beaucoup, elle pose la question de l'égalité dans l'amitié. Par exemple, vous prenez Montaigne et la Boétie, nous, on connaît mieux Montaigne, enfin moi en tout cas je connais mieux Montaigne que la Boétie, mais on peut imaginer Montaigne admire la Boétie. D'ailleurs, ils se rencontrent au moment où la Boétie vient de publier quelque chose. Donc, et ça, je crois beaucoup, justement, c'est une des choses que j'aime dans l'amitié, c'est cette délicatesse de la réciprocité, de l'égalité, de l'équilibre qui parfois n'est pas toujours présente dans l'amour et qui me paraît importante. Donc il faut... Est-ce que Fellini admire ceux qui l'admirent, voilà. Et ça, je me pose cette question-là, parce que pour moi, c'est nécessaire. Sinon, vous parlez dans votre livre, vous avez une petite phrase qui rejoint d'ailleurs une remarque que j'ai lue récemment dans Colcause. Vous parlez de la répugnante distance entre l'admiré et l'admirateur.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait ça, parce que sinon, il n'y a pas d'amitié.
Bien sûr, mais je crois que...
Pour finir.
Oui, mais bien sûr, mais je crois justement que dans l'amitié, revenons à notre image du début, à mon image du début, celle de Kafka et de Max Brod, c'est Kafka le grand créateur, mais je pense que Kafka aime Max Brod et dépend de Max Brod, c'est-à-dire sans Max Brod, Kafka n'aurait pas été Kafka. Ça, j'en suis convaincue. Donc, d'où...
Mais l'admire-t-il ?
Je pense qu'il l'admirait, bien sûr, qu'il l'admirait. Bien sûr qu'il l'admirait. En tout cas, il l'aimait. Il l'aimait, ce qui est encore supérieur, peut-être. Il l'aimait, et c'est l'élément indispensable de son œuvre.
Très bien. Nous terminerons sur ces mots, Anne Serre. Je rappelle le titre de votre roman... Vertu et Rosalinde, au Mercure de France, Alice Fernet, vous publiez aux éditions Actes Sud, Comme en amour. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Jérôme Casamayou. La semaine prochaine, Réplique ne sera pas diffusée, pour cause de Toussaint. À la place, vous pourrez suivre Orthodoxie, suivi de Solae. Dans deux semaines, Réplique revient avec une émission intitulée « Vivons-nous la fin de la Ve République ?» Mes invités seront Benjamin Morel et Dominique Régnier. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.